la Méditerranée, bonjour les Méditerranéens, bienvenue à tous et à toutes. Un plaisir que de vous retrouver pour ce nouveau Cantara, notre magazine interméditerranéen. Un Cantara marqué par la grande ébullition politico-électorale au sud comme au nord de notre Mare Nostrum. Une ébullition qui témoigne des profonds changements qui ont redéfini l'espace politique, l'espace médiatique et même les esprits. Nous y reviendrons. Pour l'instant, permettez-moi d'accueillir et saluer notre collègue Nadira Belkhoutout qui nous accompagne depuis Rabat. Bonjour Nadira.
Bonjour Iman.
Bonjour. Alors, comment va à Rabat?
Ben, ça se passe très bien. Nous avons un printemps précoce, mais sinon ça va bien.
Un printemps précoce. Nous allons reparler avec après Pierre-Louis, nous allons reparler. Eh bien, nous sommes toutes les deux pour ce duplex Rabat-Madrid, mais Cantara, ce sont 6 radios, 8 producteurs et des équipes techniques qui se donnent rendez-vous toutes les semaines.
Oui, Iman, Cantara n'existerait pas sans ce réseau de complicité, cette ténacité de 6 radios et de leurs professionnels, RTCI Tunis avec Mayad Asili, Radio Le Caire avec Dina Abdelmajid, RCFM Corse et le tandem Pierre-Louis Alessandri et Jérôme Susini, la radio publique libanaise avec nos collègues Elissar Nadaf et Nanette Ziadeh, et bien sûr la radio extérieure des Hispania avec toi, Imen Ouanzar.
Et la SNRT Rabat avec l'ami Nadira Belkhoutout. Nous commencerons aujourd'hui par l'actu.
La revue de presse méditerranéenne concoctée comme toutes les semaines par Pierre-Louis Alessandri.
Cinquième mandat, l'Algérie dit non. C'est le titre du journal El Watan. Des milliers de manifestants, majorité des jeunes, ont dénoncé dans les rues de plusieurs villes d'Algérie la candidature du président Bouteflika pour un cinquième mandat. Ce dernier, gravement malade et se déplaçant en fauteuil roulant, a été adoubé par les instances du FLN, le parti au pouvoir depuis l'indépendance de 1962. Tous les marcheurs insistent sur le caractère pacifique de l'action, souligne El Watan. Le journal Liberté titre également sur le non de l'Algérie au cinquième mandat de Bouteflika. Le journal fait un tour de plusieurs villes et donne des chiffres de manifestants, 200 000 à Béjaïa, 100 000 à Alger. Le journal satirique marocain Le Canard Libéré intitule son édito « Les roulés du fauteuil roulant » et pose la question « Est-ce sérieux qu'un président momifié rempile pour un cinquième mandat ? Comment croire que celui qui se fait conduire, le teint blême et le regard éteint, visiblement insensible à son environnement, puisse encore diriger quoi que ce soit ?» La presse française a aussi abondamment relaté les manifestations de l'Algérie, témoignage d'une manifestante au micro de l'envoyé spécial de France Inter. Le président Bouteflika a beaucoup donné pour l'Algérie, il faut le laisser se reposer désormais. Le Maroc accueillera cette fin février à Casablanca la Conférence internationale du sucre, le rendez-vous international des acteurs de la filière sucrière, où sont attendus plus de 500 participants, précise le journal Aujourd'hui le Maroc, qui souligne qu'à cette occasion, l'accent sera mis sur les modèles de développement du secteur en Afrique du Nord et Moyen-Orient. L'Organisation mondiale du sucre compte 88 pays. Même si le premier pays agricole de l'Europe est la France, l'Espagne et l'Italie représentent plus de la moitié des surfaces cultivées de vergers de l'Union européenne. Le site Econostrum, citant l'Office statistique de l'Union européenne, précise que les deux tiers de la superficie des vergers se retrouvent concentrés en Espagne, 33% de l'Europe, suivi de l'Italie, 22%, et de la Pologne, 13%. Le site précise aussi que les pays méditerranéens se distinguent avec les orangers dont 53% plantés dans l'Union européenne le sont en Espagne, 31% en Italie et 11% en Grèce. L'Espagne est aussi en tête pour les agrumes à petits fruits comme les clémentines, 72% du total de l'Union européenne. Après les élections régionales, la Sardaigne passe de gauche à droite. Le centre droit arrive en tête avec presque 45%. La gauche arrive en deuxième position avec un peu plus de 32%. Par contre, le mouvement 5 étoiles s'effondre à un peu plus de 10%. La presse italienne, d'ailleurs, titre sur cette défaite Le Messaggero, l'Unione Sarda, La Repubblica, Le Corriere della Sera font leur titre sur l'effondrement du mouvement 5 étoiles, le parti de gouvernement allié à la Ligue. Cependant, en ce qui concerne l'élection des présidents de région, les deux candidats, Solinas pour la droite et le maire de Cagliari, Zedda, pour la gauche, sont pratiquement à égalité. Nous ne sommes pas en été et la Corse brûle. Le nord-ouest, l'extrême sud, le Cap Corse, ravagé par des incendies attisés par un vent violent. Forêt de pins, village menacé, actes criminels ou imprudence ou encore dérèglement climatique, qui le sait. La Corse subit les flammes et ce n'est pas la première fois en hiver. La Corse en feu, c'est le titre qui barre la une du journal Corse Matin avec une photo du village de Calenzana entouré de flammes. Bilan des 50 incendies, plus de 1500 hectares partis en fumée.
Une campagne électorale qui inclut, tu le vois bien Nadira, des éléments nouveaux en Algérie, ou peut-être pas si nouveaux que ça, parce que déjà en 2014, il y avait eu des manifestations, notamment du mouvement Balaket. Et les élections en Sardaigne, au cours desquelles le mouvement 5 étoiles s'effondre, le développement du secteur sucrier dans notre région et les incendies. Comme nous allons revenir sur la volatilité politique et électorale, je commencerai plutôt par les incendies. L'hiver s'est mué en printemps et déjà on commence à déplorer de graves incendies, y compris dans le nord de l'Espagne, pourtant beaucoup plus humide que le reste du territoire. Qu'en est-il au Maroc, Nadira ?
Alors cette année, comme partout, même chez vous en Espagne, un peu en France, il y a un printemps précoce avec des chaleurs et des températures qui sont anormales pour la saison. Déjà, j'ai vu des coquelicots avant-gardistes un peu dans les champs de blé. On attend avec impatience des chutes de pluie qui seraient prévues pour le mois de mars. Mais vraiment, le besoin de pluie se ressent pour l'agriculture et pour les agriculteurs. J'espère que l'année sera sauvée.
Oui, alors quand le soleil s'est imposé, on a commencé par être très content, tout ça. Et là, on commence à regarder le ciel avec inquiétude. Il faut qu'on l'avoue. Nos amis auditeurs l'auront compris à travers donc la revue de presse de Pierre-Louis. On vote et on votera beaucoup en Méditerranée dans les mois et les semaines qui viennent. Mais les processus électoraux ne commencent pas avec les campagnes électorales et encore moins avec l'ouverture des bureaux de vote. Ils commencent bien avant, dans le législatif, dans les parlements.
Oui, en effet, Iman, c'est le sujet que nous propose d'ailleurs depuis le Caire Dina Abdelmajid et qu'on va...
Et donc Dina a rencontré le professeur, notre politologue préféré, le professeur Abdel Fattah, et il nous explique en fait en quoi consiste cette réforme et il nous donne son opinion. Nous écoutons donc le reportage.
Eh bien, cette question doit se ramener en fait à une question préalable Quelles sont vraiment les raisons pour lesquelles on pourrait changer ou bien amender une constitution? Alors, par exemple, quand il y a une constitution et puis après de nouvelles circonstances apparaissent et qui exigent l'amendement de la constitution, donc l'État intervient ou bien toutes les autorités interviennent pour préparer un projet d'amendement. Eh bien, la motivation fondamentale pour amender une constitution, c'est que une constitution, par exemple, s'avère caduque ou bien démodée ou bien incapable justement de résoudre des problèmes qui émergent sur le terrain, dans la réalité. Dans ce cas, on a besoin de voir les articles. Regardons tout d'abord les articles à amender. Eh bien, pour les mandats du président, quel est justement l'argument qu'on présente? On dit qu'il faut donner du temps au président afin qu'il réalise tous les projets qu'il avait déjà préparés. Alors, dans ce cas, c'est qu'il y a toujours un regard personnel. Parce que quand un président, par exemple, part, il y a un autre président qui le remplace. Et le président qui le remplace, il faut le voir non pas de manière personnelle, mais on dit que c'est une institution. C'est-à-dire que c'est l'institution, la présidence, qui devra assumer la suite. C'est ça la question. Personnellement, dans tous les pays du monde, on regarde les mandats. Les mandats, c'est entre 4 et 5 ans, généralement. Mais on dit on a décidé de prolonger le mandat 6 ans et on donne l'occasion pour chaque président, par exemple, qui le remplace, d'avoir 2 mandats. Là, c'est un problème, parce que moi, je ne vois aucune raison réaliste pour le changement de mandat. Il faut regarder les choses de manière abstraite, universelle et aussi logique.
Mais on ne va pas changer juste la constitution pour cet article. Il y a d'autres articles, d'ailleurs, vous avez même mentionné qu'il fallait les changer, les corriger.
Mais ça, c'est fort possible, parce que parfois, on rencontre des difficultés dans la réalité, qui nous impose de changer là. Moi, à titre, j'aurais voulu qu'il y ait un amendement. Mais à mon avis, l'amendement devrait toucher autre chose, devrait porter sur autre chose. L'article qui a besoin d'être amendé, c'est l'article numéro 2. C'est quoi l'article numéro 2? Il dit, par exemple, la charia est la source de la loi, la source principale. C'est-à-dire la charia islamique est la source de la loi. Parce que cet article permet à toute formation politique de s'ériger en parti politique. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours un parti pour les salafistes. Il est vrai qu'il y a toujours un autre article qui dit il est interdit de fonder un parti sur des fondements religieux. C'est vrai qu'il y a un article. Mais jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de procès intentés contre le parti salafiste parce qu'on dit que ceux qui intentent ce procès avancent un argument très fort. C'est l'article dont je vous parle, qui est interdit en fait de former. Mais pourquoi le tribunal ou la cour n'arrive pas à trancher? Parce qu'il y a l'article numéro 2. Les salafistes peuvent par exemple dire, écoutez, nous sommes là parce qu'il y a un article numéro 2 qui dit la source de la loi, c'est la charia, et nous sommes une formation politique qui s'inspire de la charia, et notre programme s'inspire de la charia, donc notre fondement, ou bien notre fondation en tant que parti, est légitime, légale. C'est un article qui a besoin d'être changé depuis des siècles, et jusqu'à maintenant, il n'a pas encore été changé.
Dernière question, mais juste, est-ce que cet amendement sera mis au référendum ou sera juste amendé par le Parlement?
Il devra être. Il faut qu'il y ait toujours un référendum.
On ne va pas se contenter du Parlement.
Non, le Parlement, quand il dit oui, c'est-à-dire qu'il donne le feu vert, là, on lance ça au référendum.
Alors, c'était un avant-papier de Dina Abdelmajid depuis le Caire qui nous met un peu dans l'ambiance des réformes qui seront effectuées avant les élections, une réforme de la Constitution qui va porter sur un certain amendement et qui va bien sûr porter à référendum.
Voilà, c'est une réforme qui a trait au nombre de mandats présidentiels. Donc, pour que le général Sisi puisse se représenter, il faut qu'il y ait amendement de la Constitution actuelle qui limite les mandats. Donc, si le Parlement donne son avis favorable, enfin vote pour, un référendum populaire sera organisé par la suite pour permettre cette nouvelle candidature. Et on se surprend à voir que très souvent, cette question de la limitation des mandats est récurrente dans beaucoup de pays. Et On tâtonne, on ne sait pas quelle est la bonne formule. Et parfois, peut-être aussi, on a l'impression qu'il faut donner du temps, comme l'expliquait le professeur, du temps pour que le programme soit effectué.
Je ne dirais pas qu'on tâtonne puisque c'est un peu normal. C'est le premier mandat du général Sisi après le printemps arabe. Et donc cette réforme était nécessaire puisque l'Égypte sort d'une zone de turbulence et il faut bien sûr recadrer les choses, recadrer les présidentielles afin de donner. L'Égypte vient de sortir du printemps et il est un peu normal que le législateur en Égypte puisse faire cette réforme afin de recadrer le processus des élections présidentielles.
Oui, mais justement, ce n'était pas vraiment l'opinion du politologue égyptien, parce que ça crée toujours la sensation que on n'a pas respecté les règles du jeu, même si là, les règles du jeu au niveau formel seront respectées, puisque c'est le Parlement qui devra se prononcer d'abord et un référendum après. Et donc, partout ailleurs, on vote.
Oui, et c'est un peu à l'opposé de ce qui se passe actuellement en Algérie, puisque l'Égypte sort d'une période de l'après-printemps arabe qui a connu des manifestations et bien sûr un changement. Ils ont écarté les islamistes pour donner la place à un gouvernement, un président civil, entre parenthèses. Et on remarque qu'en Algérie, c'est vraiment c'est les élections et c'est un cinquième mandat du président Bouteflika qui est contesté. Il y a des manifestations qu'on a vues un peu partout. Il y a aujourd'hui même les candidats de l'opposition se réunissent pour vraiment se discuter, pour mettre en place leur stratégie.
Oui, alors il y a aussi un cheminement. Dans la constitution qui était antérieure à 99, le nombre de mandats était aussi limité. Une fois que Bouteflika a été élu, il y a eu une réforme de la constitution pour lever justement cette limitation des mandats. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à ceux qui sont autour du président Bouteflika de dire nous sommes parfaitement dans la légalité, bien que entre-temps il y a quand même une autre réforme pour ramener la Constitution à ce qu'elle était. Enfin bon, il y a plusieurs changements suivis. Et la contestation dans la rue, on a vraiment l'impression que qu'elle était inévitable, ne serait-ce que pour le changement générationnel. Ça fait 20 ans que le président Bouteflika est président et surtout, il est gravement malade. Ce qui
Oui,
ne rassure pas la population. Parce que...
le président est malade et en plus les élections c'est pour le 18 avril.
Oui.
Est-ce que ces manifestations pourraient, dans un laps de temps, permettre de changer la donne? Ça dépend de l'intensité que ces manifestations vont prendre. Et puis moi je pense que les décisions se prennent ailleurs. Et donc, si on veut prolonger le mandat pour Bouteflika, ce n'est ça, ça se, comme on dit, le jeu est fait ailleurs. Et peut-être même que ce même mouvement de manifestation qui entoure les élections sera capté par le système, le régime de Bouteflika pour dire, ben oui, regardez, il y a eu des manifestations de façon démocratique qui ont dit non, mais le jour des élections, les gens se sont prononcés pour reconduire Bouteflika. Moi, je suis sceptique. Je ne pense pas que Bouteflika abandonne et je pense qu'il sera réélu pour un cinquième mandat.
Je pense que de toute façon, la grogne cette fois-ci est assez forte. Même nos collègues des chaînes de radio publiques ont protesté. le 26. La responsable des actualités, de l'information, des journaux, a démissionné il y a quelques jours avec fracas. En annonçant pourquoi elle démissionnait. Donc, ça va beaucoup plus loin que les grognes qui ont été vécues jusqu'à présent. Je crois qu'il est, vital que l'opposition soit présente, mais je crois qu'il est vital aussi que l'opposition écoute le reste de la population. Parce que les partis politiques, dans beaucoup de pays, sont des partis politiques qui n'agissent qu'à l'approche des élections et donc
qui n'ont pas les
voilà
moyens, qui n'ont pas les moyens de leur politique. Et puis moi je vais parler là au conditionnel, je l'ai dit, je veux en parler au conditionnel. Les manifestations populaires, est-ce qu'elles pourraient vraiment avoir un impact pour changer le système? On l'a vu, ce qui s'est passé pendant le printemps arabe dans les pays arabes, c'était pas les manifestations toutes seules qui ont entraîné les bouleversements qu'on a connus. Les décisions se prennent ailleurs. C'est une question d'intérêt géopolitique entre plusieurs parties, et c'est à elles sont pas en Algérie.
Oui, il y a quand même l'expérience de 1988, lorsque ce sont effectivement des manifestations qui ont amené le régime à lâcher du lest et à faire des réformes. Ça date, c'est déjà, comme je disais, une génération qui est passée. Peut-être que ces manifestations, que cette grogne qui s'étend partout, sur 48 wilayas, il y a 44 qui ont connu des manifestations importantes. Donc peut-être que ça va amener des changements, que ça va amener une nouvelle perspective. Mais je suis tout aussi incapable que toi de le dire de façon...
Faire un pronostic.
Voilà. Alors, on est en Espagne, on vote aussi. En Espagne, ça sera aussi des élections un peu surprises. Et ce qui est à noter un peu partout, c'est l'instabilité. Parce que pour la première fois, on ne sait pas exactement vraiment comment sera l'échiquier politique après les élections. Et jusqu'à présent, on savait que le Parti populaire, le Parti socialiste s'alternait et que les autres étaient là un peu comme accompagnateurs. Mais à présent, on ne sait plus, surtout avec la montée en force d'un nouveau parti, le parti Vox, qui est plus à droite que la droite traditionnelle. On voit aussi en Sardaigne le mouvement 5 étoiles qui avait été grand vainqueur il y a deux ans dans les élections, qui s'effondre complètement, et on dit qu'il pourrait s'effondrer dans toute l'Italie. Là, les élections en Algérie, bien que beaucoup pensent que rien ne changera, il est possible qu'il y ait des choses qui changent. Donc, c'est très intéressant à observer, mais cette instabilité inquiète beaucoup de gens.
Moi, je dirais que c'est pas une instabilité. Je parlerai au niveau mondial, l'économie qui précède le politique. Et au niveau mondial, on dirait que le monde, après la mondialisation sur laquelle il y a des questionnements, des interrogations, le monde est à la recherche d'un nouveau modèle socio-économique. Avec les problèmes économiques qu'on voit partout en Espagne, chez vous, chez nous, les gilets jaunes et tout ça. Donc, il y a des mutations qui se font souterraines encore, à la recherche d'un nouveau modèle socio-économique. Et bien sûr, au niveau politique, ça se ressent. Les citoyens souffrent beaucoup de la crise économique. Et tout ça impacte le champ politique, les élections. Et on est à la recherche de représentations politiques
de nouveaux modèles.
Voilà.
De nouveaux modèles. En attendant, ça bouge, ça tangue.
اكتشاف موسيقي.
Hallazgo musical.
Hallazgo musical. Okay, a musical discovery.
Dans Découverte musicale cette semaine, je vous propose une nouvelle voix montante de la scène tunisienne, le guitariste-chanteur Nour Harakati. Son nouvel opus Helwes vient de sortir. En voici un extrait.
والعين تبلاد تملاد بغبار الخيل وفراق احبابي وايام تواسي صدايا بالناس ذرير ويزيد هلواسي الناس من الناس للناس في الناس يزيد ناريت خيالي في رمال 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 ورمال الريح وايام تواسي صدايا بالناس يدرير والليل خذاني من ناس الملاح للناس للداون فيه في رمال الريح وكلامي فايدة في رمال الريح وكلامي ماله فايدة وخفيت من الناس اللي تهواني أنا عدياني فيه وخفيت من الناس اللي تهواني أنا وخذاني الليل ونسيت عدياني
Cántara, nuestro programa intermediterráneo.
Retenez bien ce nom, Nour Harakati, que nous propose Maïed Asili depuis Tunis. Nous changeons de thème, de pays, de préoccupation. Depuis Beyrouth, Nanette Ziadé a tenu cette semaine à nous ramener aux dures réalités, celles de la fragilité de l'être humain face aux maladies et dans ce cas précis, face au cancer. Pour ce faire, elle s'est adressée à l'une des plus importantes oncologues libanaises. Nous écoutons son reportage.
La planète semble être en proie aujourd'hui à un fléau qui s'appelle cancer. En cause, notre mode de vie, qui n'est pas prêt de changer d'ailleurs. Le Liban revoit-il ses chiffres à la hausse ou à la baisse? Fait-il figure d'exception dans le bassin méditerranéen? Le point avec une de nos plus éminentes oncologues, le docteur Christine Arrater.
Nous sommes tous à risque, hommes et femmes, partout dans le monde.
Et plus qu'avant, apparemment.
Oui, parce que notre espérance de vie ne cesse de s'accroître, d'un côté, et de l'autre, parce que nous sommes exposés à un certain nombre de facteurs externes, environnementaux, et aussi notre mode de vie. Mmh. Il faudrait que nous mettions toutes les chances de notre côté pour diminuer la possibilité qu'un cancer n'apparaisse. Ce n'est jamais une garantie, mais un mode de vie sain qui comprend un régime alimentaire équilibré, riche en fruits, légumes. Essayer d'éviter la sédentarité et de maintenir un exercice physique régulier, modéré, c'est très important. Et éviter ce qui peut déclencher des cancers. Comme la cigarette, le tabac est clairement encore numéro un dans le monde comme cause de cancer. L'obésité est numéro deux. Le surpoids, chez les hommes autant que chez les femmes, pour un grand nombre de cancers.
Alors, est-ce qu'il y a plus de cancers partout dans le monde ou dans certaines régions du monde?
C'est clair qu'un mode de vie, entre guillemets, occidental, est lié à un certain nombre de cancers.
Quand on dit occidental, on veut surtout parler de sédentarité à ce moment-là.
Sédentarité et une alimentation trop riche en graisse, en sucre, tabac, alcool, voilà un peu.
Alors, quelle est la réalité? Quelle est la part de mythe qui entoure l'absorption de certains aliments et leur corrélation donc au cancer en règle générale?
Si vous faites allusion au sucre...
Pour commencer, oui.
Il n'est pas directement en cause tant qu'il est consommé en modération, parce que ça reste une source d'énergie pour toutes les cellules. C'est quand il rentre dans le cadre d'une alimentation excessive, trop riche en calories et qui entraîne une obésité. C'est l'obésité qui est le lit du cancer et non pas le sucre.
Alors, on incrimine aussi très souvent le stress. Qu'en est-il exactement?
Difficile à prouver cela, mais le stress en soi est quasiment inévitable dans une vie. Il s'agit de pouvoir le gérer et de mettre tous les outils de son côté pour minimiser le stress, parce que le stress a des effets néfastes sur la santé en général, sur un certain nombre de maladies, en particulier cardiovasculaires. Donc il y a des moyens de combattre le stress, comme l'exercice physique, la relaxation, s'entourer de personnes bienveillantes avec lesquelles on s'entend bien, pouvoir échanger, c'est important.
Est-ce que vous pensez que justement la médecine va pouvoir bientôt avancer de manière considérable par rapport aux moyens que nous avons aujourd'hui pour guérir les cancers?
Il est clair que nous avons fait énormément de progrès durant les dernières 50 années et ça ne cesse de se confirmer. Nous avançons, le cancer ne sera probablement jamais enrayé complètement, mais il est devenu plus dépistable, plus guérissable. Il y a les personnes cancéreuses vivent beaucoup plus longtemps et en général mieux. Donc c'est clair que nous avons beaucoup progressé.
Alors, vous parliez tout à l'heure d'une augmentation des cas de cancer dans le monde. Est-ce que on a un chiffre d'augmentation annuelle ?
Je vais vous donner, pour simplifier, dans les 20 années qui suivent, il est clair que une personne, un homme sur 3 et une femme sur 4 sera atteint de cancer. Ça ne veut pas dire qu'ils mourront du cancer, mais qu'ils seront diagnostiqués de cancer s'ils arrivent à vivre jusqu'à l'âge de 80 ans.
Est-ce que cette courbe est réversible ?
Je ne pense pas. Beaucoup d'autres maladies sont en train d'être guéries, les maladies infectieuses et tout. Le cancer, c'est la dernière frontière. Et tant qu'il y a des cellules qui sont en division et tant que nous avançons en âge, le cancer va apparaître, qu'on le veuille ou pas.
C'était le reportage de Nanette Ziadeh. Le cancer, une des maladies du siècle qui est de plus en plus curable, mais qui reste terriblement crainte. Quelqu'un auquel on annonce de but en blanc « Vous avez un cancer », en général, il pense au pire.
Oui, hélas, Iman, malgré le progrès de la médecine, malgré le progrès enregistré à ce niveau-là, là vraiment, c'est une maladie qui occasionne une grande souffrance. C'est une maladie coûteuse. Ça nous fait penser aux personnes qui subissent des séances de chimiothérapie. Et bien sûr, on pense surtout aux gens qui n'ont pas les moyens de se soigner contre cette maladie.
Absolument, parce que nous restons inégaux face à certaines maladies et le cancer est une de celles-là. Selon l'endroit où vous êtes, selon la classe sociale à laquelle vous appartenez, vous avez plus ou moins de chances de vous en sortir. À présent, Nadila, nous allons chez toi pour découvrir le palmarès d'un grand prix littéraire qui commence à prendre du poids, à se consolider après 25 ans d'existence. Nous plongeons dans les bonnes feuilles.
Oui, Iman, le prix Grand Atlas est un prix littéraire quasi annuel créé en 1991 par l'ambassade de France au Maroc. Il récompense dans plusieurs catégories, variables selon les années, des livres édités au Maroc. Et après avoir été exclusivement consacré à la littérature d'expression française, tiens-toi bien, il s'est ouvert à celle d'expression arabe dès le début des années 2000. Et depuis 2004, la traduction est systématiquement à l'honneur. Et depuis sa création, il a lieu chaque année. Il y a eu des exceptions, il n'a pas été décerné en 1994, 2003, 2008, mais son déroulement jusqu'alors est passé à l'automne pour correspondre à la rentrée littéraire. Et il y a aussi maintenant la traduction qui s'invite dans ce prix afin de permettre, parce que la traduction est importante puisque ça permet de traduire les œuvres du français à l'arabe et de l'arabe au français afin d'en assurer une grande diffusion et bien sûr une meilleure compréhension de la littérature.
Eh bien, nous écoutons ton reportage.
Il y a eu beaucoup d'ouvrages, nous nous sommes beaucoup interrogés sur le classement, car c'était excellent. Il y a donc deux prix, l'un qui concerne la traduction, non-fiction, et l'autre qui concerne la fiction francophone, tous, dont c'est la première traduction.
Le suspense était à son comble ce mercredi 14 février au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat, avant l'annonce des lauréats vainqueurs du prix Grand Atlas édition 2019. Le prix Grand Atlas a été décerné pour la partie traduction in exequo à Azdine Chentouf pour sa traduction de Maurice Blanchot.
Il m'a traumatisé ce philosophe, poète, j'ai essayé de trouver des issues pour accéder à son langage, parce que son langage est très difficile, parce que il commente des ouvrages des philosophes et il critique des travaux, des recueils des poètes, etc. Il fallait que je lise tous ces travaux, à commencer par ces recueils, ces récits, Thomas l'Obscur. Je vivais vraiment dans une atmosphère de mort, de la mort.
Hamid Gsous a été récompensé pour sa traduction de Patrick Chamoiseau.
Chamoiseau est un grand romancier martiniquais. Il est connu, célèbre. Il a eu le prix Renaudot en 1992 pour son roman Texaco. Mais pour ce livre, c'est quelqu'un de prolixe, on va dire. Il publie tous les deux ans un roman, un essai, etc. Et puis, pour écrire cet ouvrage-là, il a fait quand même 15 ans. Il a fait 15 ans et c'est un ouvrage qui lui a permis de faire le deuil de sa mère, quoique il déteste ce mot-là. Et moi, sincèrement, lorsque la maison d'édition Toubkal et à sa tête notre grand poète Si Mohamed Ben Nis, lorsqu'il m'a contacté pour que je traduise le livre, sincèrement, je ne vous cacherai pas que j'étais pas chaud. Mais une fois que j'ai commencé à lire le livre, je venais de perdre ma mère et il m'a permis de faire mon deuil.
Le prix de la fiction a été attribué à Ahmed Boukous pour son ouvrage « Rhapsodie de Tanit, la captive ».
Nul ne peut prétendre que le français est totalement étranger, n'est-ce pas, au Maroc, à la société marocaine. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est que tout le monde aujourd'hui cherche à avoir ses enfants à l'école française. C'est la réalité et c'est la vérité. Mais malheureusement, on n'a pas le courage de dire, eh bien, nous voulons que nos enfants puissent être éduqués en langues étrangères. Moi, je ne parle pas seulement du français, mais de l'anglais également. Voyez ? Donc, le fait d'encourager la production littéraire en langues étrangères, vous voyez, moi, je mets ça au pluriel, en langues étrangères, c'est une façon de dire, nous voulons nous ouvrir sur l'universalité.
Le prix Grand Atlas se permet un quart de siècle depuis sa création de diffuser la pensée contemporaine et d'enrichir le débat d'idées. La circulation de la pensée et de la parole ne peut se faire sans la traduction. Traduire, c'est donner à chacun dans sa propre langue accès à l'universalité. Clélia Chevrier-Glaco est l'attachée culturelle à l'ambassade de France de Rabat.
Je dirais que ce prix est très important d'abord parce qu'il nous unit depuis maintenant 25 ans. 25 ans et nous avons vu passer à la fois au niveau des présidents et présidentes du jury des grands noms, je pense à Monsieur Le Clésio, Monsieur Orsena, mais également Leïla Slimani. Et puis du côté des écrivains, le prix a été accordé à des écrivains de renom comme Drish Schreiby par exemple. Et c'est pour nous important de voir l'impact de ce prix aussi sur les ventes de ces livres. C'est important pour nous de soutenir ainsi les auteurs. Autre fait marquant pour nous, c'est de soutenir la traduction. Ce n'est pas simplement un soutien à des œuvres, des essais ou des œuvres de fiction, mais également un soutien à la traduction qui est vraiment un dialogue entre les cultures, qui permet d'apporter aussi les œuvres françaises en arabe au Maroc et de faire se développer aussi cette culture de la lecture.
L'universalité, la revendication de l'universalité, un très beau programme. Mais au moins cette année, on a l'impression que ça manque de lauréates au féminin.
Si, il y a eu des lauréates qui n'ont pas été primées. Je citerai quelques noms. Par exemple, il y a eu Salima Louafa. C'est une jeune fille. Elle a touché au domaine de l'écriture et de la littérature. Elle est aujourd'hui installée aux Philippines. Elle se consacre à l'écriture et elle a publié en 2017 le roman « Chair d'argile » aux éditions Afrique-Orient. Il y a aussi Zakia Daoud, une femme de lettres très connue. Mais elles n'ont pas été primées, donc je pense que...
On attendra l'année prochaine.
Certainement. Et puis dans les autres éditions, il y a eu des femmes de lettres qui ont reçu le prix du Grand Atlas.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción.
Il y a 80 ans, décédé sur le chemin de l'exil, le grand poète, écrivain et intellectuel républicain Antonio Machado. Le chef du gouvernement sortant, Pedro Sánchez, est allé il y a quelques jours se recueillir sur sa tombe à Collioure, dans le sud de la France. Cette commémoration ne peut pas ne pas être rapprochée de la question de l'exhumation des restes du général Franco du mausolée del Valle de los Caídos. Le régime franquiste avait en effet tout fait pour tenter de rapatrier la dépouille d'Antonio Machado, pourtant républicain, comme symbole de réconciliation dans les années 50. Mais la famille de Machado s'y était fermement opposée. À présent, c'est Collioure qui a fait sienne cette tombe perpétuellement fleurie du petit cimetière de la localité. Antonio Machado, sa mère, son frère, sa belle-sœur étaient arrivés dans le dénuement le plus total à Collioure. Le professeur Jacques Isorel nous raconte.
Ils sont arrivés tous les quatre le 28 janvier 1939 par le train de l'après-midi, 5 heures de l'après-midi, et Antonio Machado est mort 26 jours plus tard, le 22 février.
Pour l'enterrer, on demande à une famille du village de prêter une niche du cimetière, et on fait ce qu'on peut.
Oui. C'est-à-dire qu'il a été donc mis dans cette niche, mais il y a eu ensuite une réinhumation en 1958, et la tombe de Machado, vers laquelle viennent beaucoup de pèlerins se recueillir, c'est la tombe qui a été construite en 1958 grâce à une souscription populaire.
Oui, alors justement, en 1958, curieusement, Madrid se souvient de son poète et veut le rapatrier en quelque sorte. Et qui empêche ce rapatriement ?
Et l'Espagne voulait le rapatrier parce que pour le régime franquiste, ça aurait été un bon point de montrer que l'Espagne accueillait l'un de ses fils les plus illustres.
Voilà, on était aussi en pleine construction del Valle de los Caídos et la réconciliation et tout ça.
Voilà. Seulement, le frère d'Antonio, José Machado, qui était avec lui à Collioure et qui s'est ensuite exilé au Chili, à Santiago de Chile, a refusé que le corps de son frère et de sa mère, d'ailleurs, qui est morte 3 jours plus tard et qui est dans la même tombe, a refusé donc que les corps de son frère et de sa mère soient rapatriés en Espagne. Évidemment, s'il y avait une décision prise par le gouvernement français d'accepter, mais il faudrait que ça remonte très très haut,
oui.
Parce que, bon, d'une part, les habitants de Collioure, mais je dirais presque aussi et surtout les animateurs de la Fondation Antonio Machado de Collioure, créé en 1977 et qui faisait suite à l'association Les Amis d'Antonio Machado, créée dès 1945 et qui a été elle aussi active et qui a été à l'origine de la construction de la tombe actuelle.
Oui.
Eh bien, toutes ces personnes pensent que Antonio Machado s'est exilé volontairement pour fuir l'Espagne franquiste et sans doute pour sauver sa peau, tout simplement, parce qu'avec l'engagement qui était le sien en faveur de la République, eh bien, il aurait couru les plus graves dangers. Et donc, cet exil volontaire et ce que rappelle cette tombe, c'est aussi le témoignage des valeurs qu'a défendu Antonio Machado tout au long de sa vie et jusqu'au sacrifice suprême.
En fait, nous parlons beaucoup des gens de Collioure, mais autour de ce petit noyau, en fait, il y a la France des intellectuels qui s'est aussi mobilisée.
Oui, quand la souscription a été lancée, et des dons sont arrivés de beaucoup d'endroits. Des étudiants de la Sorbonne se sont mobilisés pour faire une collecte d'une autre université aussi de Rennes. Ça, je l'ai retrouvé récemment grâce à Antonina Rodrigo, qui aussi s'était mobilisée pour envoyer des petites sommes. Voyez, mais il y a eu aussi des gens prestigieux comme le poète René Char, comme Albert Camus, comme des universitaires, voyez, qui et même Jean Cassou avait proposé à José Machado, au frère, que qu'Antonio Machado soit enterré à Paris. Et José a dit non, 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 il est mort à Collioure et il sera enterré à Collioure.
Et nous voilà arrivés lentement mais sûrement à la fin de cette rencontre. Un plaisir, comme toujours, de partager cet espace avec toi, Nadira, et avec nos amis de la SNRT Rabat.
Un plaisir partagé, Iman, avec également nos auditeurs, nos fidèles de l'émission Cantara.
Absolument. Et ici, à la réalisation, se trouvait Miguel León.
Ici, à la réalisation, à côté de moi, il y avait Karim Lahmiri.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Karim Lahmiri. Merci beaucoup, Miguel León, et tous nos techniciens sans lesquels il n'y aurait pas de Cantara. Merci, Nadira. Merci à la SNRT et merci à tous nos partenaires.
Merci Iman et à la semaine prochaine.
Avant de vous quitter, amis auditeurs, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à notre page Facebook Cantara. Vous y trouverez des compléments d'informations, des débats. Alors, à la semaine prochaine, sans faute. Au revoir.
Au revoir et à la semaine prochaine.